Podcast. La première, du lundi au vendredi, 11h midi. Question clé avec Véronique Thiberghien.
En 2012 sortait une étude néo-zélandaise assurant que le cannabis et prouvant que le cannabis affecte de manière durable nos facultés d'acquérir des connaissances et de s'en souvenir et que le cannabis était responsable de la diminution du QI chez des jeunes adultes qui en consommaient de manière régulière depuis l'adolescence. En 2013, une autre étude américaine cette fois notait que le cannabis affecte durablement le cortex frontal et le cervelet étant notamment le centre de la coordination des mouvements, le cortex frontal étant celui des prises de décisions complexes. En 2014, en autre étude, de nouveau, affirme que le cannabis altère les zones de la motivation et des émotions centrées dans l'amygdale et dans le noyau accumbens. Et de plus en plus aujourd'hui, les études se multiplient donc pour montrer à quel point le cannabis influence non seulement le cerveau des adolescents, quand il y a une consommation précoce de ce cannabis et une consommation régulière d'ailleurs, et puis aussi évidemment des comportements qui sont modifiés, parfois de manière très durable. Bonjour Nicolas Zdanovic.
Bonjour Véronique.
On va parler de ces effets du cannabis sur le comportement. Alors il y a des effets qu'on connaît évidemment très bien. Il semble qu'il fallait des études encore pour pouvoir les affirmer et les confirmer. Que ce cannabis joue un rôle sur la motivation, les émotions et provoque des sentiments de démotivation, voire de paranoïa. Ce sont les derniers éléments qui sont apparus, mais ça vous surprend pas, vous, dans votre pratique quotidienne, puisque je rappelle que vous êtes psychiatre aux cliniques universitaires et à Montgodine, vous en voyez régulièrement.
Oui, chez mes confrères, non. Je vois énormément, effectivement, de jeunes qui fument du cannabis, mais et ce genre d'études n'est effectivement pas très étonnante. La fonction de ce genre d'étude, c'est surtout d'essayer chaque fois de mettre un peu plus en évidence comment les substances en général, et ici en particulier le cannabis, peut affecter le cerveau en donnant sur telle ou telle zone. Mais que consommer du cannabis à haute dose tous les jours pendant 10 ans n'est pas une bonne idée. Je pense pas qu'il fallait attendre 2014 pour le dire. Déjà, je me souviens que j'avais fait mon travail de rhétorique à l'époque. Il y avait déjà une tonne de
rhétorique sur le cannabis. Vous étiez déjà très engagé. Très bien.
Il y avait déjà autant de publications pour que de publications contre. Ouais. Et donc, quand même, c'est vrai pour le cannabis, c'est vrai pour l'alcool, c'est vrai pour n'importe quelle substance qui a un effet sur le cerveau, qui est un psychotrope. D'une manière générale, le cerveau, c'est quand même un truc dont les équilibres chimiques sont précieux et sont importants. Et si vous allez les modifier chroniquement, il y a beaucoup de chances, effectivement, que les choses s'installent. Alors, c'est encore plus vrai, évidemment, à l'adolescence et chez le jeune adulte, parce que le cerveau est en maturation. Et donc, comme le cerveau est en train de se modifier biologiquement par an, si vous rajoutez en plus dans le poids des modifications qui devraient se faire normalement, un truc pas trop sympathique pour le bien-être de vos petits neurones, ça risque d'autant plus d'avoir des conséquences à long terme. Mais, il faut en consommer beaucoup, il faut en consommer régulièrement. Et les chiffres en Belgique... Alors, et je pense que c'est une tendance européenne, les chiffres en Belgique depuis plus de 10 ans montrent... en Belgique, il y a l'école de santé publique de l'ULB qui, en collaboration avec l'OMS la dernière fois, font des très larges études sur les jeunes de 12 à 18 ans en communauté française. Donc c'est tous les types d'enseignement, c'est plus de 10 000 jeunes qui sont enrôlés dans cette étude. Et toutes les années, on voit que les consommateurs... Depuis au moins le début des années 2000, on voit que les consommateurs réguliers, c'est-à-dire journaliers et hebdomadaires de cannabis, diminuent d'année en année. Donc, ces criages de haro contre le cannabis, d'abord, je ne suis pas sûr que ça soit très malin sur la consommation des jeunes, parce que je pense que ça fait plus pousser à la consommation qu'un effet dissuasif. Et en plus, de manière, j'ai envie de dire, un peu dramatique, nos jeunes, ils sont de plus en plus sages, ils consomment de moins en moins. C'est vrai pour le cannabis, c'est vrai pour le tabac, c'est vrai pour l'alcool. C'est vraiment catastrophique. Ils sont vraiment sages comme des images.
On pourrait presque le regretter. Cela dit, pour ceux qui consomment, malheureusement, il y a quand même des situations qui sont extrêmement complexes à vivre, avec ces influences sur le comportement malgré tout. Ce qu'on a noté aussi, c'est que la qualité du cannabis a changé par rapport à certaines années, en tout cas par rapport à il y a 20 ans. Le taux de concentration de THC est quand même plus important dans les produits que l'on trouve aujourd'hui qu'il ne l'était auparavant. On a boosté ces produits aujourd'hui. Or, c'est le THC qui est souvent mis en cause dans les études qui ont révélé des effets néfastes sur le cerveau, l'apprentissage, la motivation et toute une série d'autres choses. Donc, malgré tout, pour ceux qui consomment, ça reste un problème assez criant. Je vous propose d'y revenir dans un instant, Nicolas Zdanovitch. Je rappelle que vous êtes psychiatre aux cliniques universitaires Montgodine. On parle avec vous de l'impact psychologique du cannabis et on essaye de comprendre le pourquoi du comment dans quelques instants.
Véronique Thiberguien, question clé, jusqu'à midi sur la première.
Il y a peu sortait un ouvrage où l'on pouvait retrouver le personnage de Jack. Jack est le héros du premier roman best-seller en Suisse et qui a reçu le prestigieux prix Édouard Roth en 2014. Il est signé Antoine Jacquier et Antoine Jacquier y relate en réalité sa propre expérience de consommateur de cannabis dans l'adolescence et en tant que jeune adulte. Il y parle notamment de l'altération de la mémoire, de la flexibilité mentale, de crises d'anxiété, de paranoïa, de rigidité du comportement qui empêche à toute personne de s'adapter à tout événement inhabituel, la distorsion du sentiment de temps, mais aussi le manque de motivation, le manque d'envie d'aller plus loin, le manque d'envie de faire des projet d'avenir. Et c'est un peu ça qu'il essaye de dénoncer aussi dans son ouvrage consacré à l'impact psychologique du cannabis, que vous verrez bientôt d'ailleurs au cinéma, puisqu'une adaptation est en cours de cet ouvrage. Ouvrage signé, je le rappelle, Antoine Jacquier. Nicolas Zdanovitch, qui est notre invité psychiatre aux cliniques universitaires Montgodine, même si les jeunes semblent consommer moins de cannabis, autant qu'ils consomment moins d'alcool, visiblement d'après les dernières études et les derniers chiffres, il n'empêche que les comportements à risque restent évident, et que la problématique de la consommation du cannabis pour l'adolescent, c'est que son cerveau est encore en formation et que c'est là que tout va se passer, autant en matière de motivation que du reste d'ailleurs.
Mais donc effectivement, le fait que vous risquez de devenir un consommateur à dose élevée et régulière, n'importe qui ne peut pas devenir ce type de consommateur, où il y a très très peu de chances. Il faut vraiment une série de facteurs qui concourent. Alors il y a des facteurs sociologiques. D'abord, c'est clair que si vous vivez dans le Bronx, vous avez plus de chances de développer une toxicomanie que si vous vivez dans un petit village des Alpages suisses.
Parce qu'on y trouve plus le produit en question.
Exactement. Mais en dehors de circonstances, on va dire, sociales et environnementales au sens large, comme la pression du groupe des pairs, etc., il faut, pour que ça ait des conséquences, et ou pour que vous deveniez un consommateur régulier, pour que ça ait des conséquences, par exemple, il faut déjà avoir vraisemblablement des anomalies, par exemple avoir une faille psychotique. Vous donnez à quelqu'un qui a une faille psychotique durant l'adolescence des hautes doses de cannabis, ça ne va vraiment pas l'améliorer. Ça risque beaucoup de le décompenser. Oui, il risque de faire des crises d'angoisse. Oui, il risque d'avoir une destruction de personnalité. Heureusement, tout le monde n'a pas une faille psychotique et il est très très peu probable qu'une personne qui n'a pas de faille psychotique ait une entrée en psychose à cause du cannabis. Pour faire le lien avec votre invité précédent, les adolescents qui ont des gros traits abandonniques vont très fort avoir tendance à se réfugier dans le cannabis parce que c'est un anesthésiant parfait de la douleur, de l'abandon et du manque. C'est déjà le cas aussi avec l'héroïne. Enfin, c'est le même principe. Il y a une espèce d'anesthésie gentille avec un produit qui, pour le toxicomane, ne trompe pas et qui est nettement moins dangereux qu'entretenir une relation avec quelqu'un parce que le produit ne vous abandonne pas. Alors, maintenant, vous prenez n'importe quel adolescent ou n'importe quel adulte, vous lui faites fumer des pétards du matin au soir et du soir au matin, c'est clair que ça ne va pas être une formule 1 de l'autoréalisation, de la prise de décision. Mais c'est vrai avec le cannabis, mais bourrez-le d'alcool ou bourrez-le de ce que vous voulez, ça sera vrai à peu près avec n'importe quoi. N'importe qui ne devient pas un surconsommateur de cannabis parce que très vite, il y a suffisamment d'attrait pour la vie dans la vie pour autre chose. On avait pris des petites souris et on les avait rendues toxicomanes à la cocaïne.
Oui.
Et puis on les sèvre. Et puis on leur redonne des doses de cocaïne. Elles peuvent se servir à volonté. On met les petites souris dans deux types d'entourage. Des cages où il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a pas de petits jeux sur lesquels elles peuvent tourner, etc. Et à l'inverse, le deuxième groupe de petites souris est mis dans un environnement super riche en des tas de jeux qu'elles peuvent faire. Et on regarde la fréquence de consommation dans les deux groupes. Dans le groupe où il y a des tas de choses à faire, le nombre de rechutes de dépendance à la cocaïne chez les petites souris est beaucoup plus faible, et vraiment significativement plus faible, que dans une vie où il n'y a rien à faire parce que vous êtes dans une cage fermée. Plus vous avez un attrait pour le monde, plus vous avez un monde riche, moins il y a des chances que vous deveniez un gros consommateur.
Ça veut dire que l'influence sur le comportement passe aussi à travers, entre autres, l'environnement, justement, et que l'environnement peut être un élément clé dans la manière dont le comportement psychique ou psychologique du jeune pourra être influencé.
Certainement, mais avec en plus des cercles de rétroaction, c'est clair que moins vous en faites parce que vous êtes sous l'influence des drogues, plus vous avez un monde pauvre parce que vous passez votre vie dans votre chambre à fumer des pétards et c'est tout. Donc plus votre vie est pauvre, plus votre vie est pauvre, plus vous allez consommer. Et donc on tombe à un certain moment dans des cercles de rétroaction qui effectivement à ce moment-là deviennent vraiment un problème. Quand on veut sevrer, quand on veut donner aux jeunes l'accès à une autre vie que celle-là, il ne s'agit pas que de le sevrer de son produit physique, il s'agit aussi en même temps de développer autre chose dans sa vie.
On a voulu aussi avoir l'avis d'un spécialiste d'un fort drogue, le cannabis qui englobe un certain nombre de problèmes qui conduisent à des troubles de la personnalité et du comportement. François Némette en a justement discuté avec Antoine Boucher de chez Un Fort Drogue.
Ce qui se passe souvent, c'est qu'on va mettre sur le dos, si je puis dire, du cannabis, un certain nombre de comportements qui n'est pas dû au cannabis. Parce qu'il y a souvent, pour des consommateurs importants, réguliers, de quantité de cannabis, un ensemble de comportements, mais qui ne sont pas dus uniquement au cannabis, loin de là. Donc, s'il y a effectivement des difficultés scolaires, s'il y a des problèmes relationnels, et s'il y a en plus consommation de cannabis, souvent, ce que le public fait, c'est qu'on met l'ensemble des problèmes sur le dos de la consommation du cannabis. Mais évidemment, le cannabis n'est pas responsable des problèmes scolaires ni des problèmes relationnels. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que, évidemment, dans ce tableau négatif de la vie d'un individu, ils se disent, moi, heureusement que j'ai encore un peu de cannabis ou un peu d'alcool ou un peu d'autre chose pour exister, pour un peu m'évader, etc. Donc, au fond, on fait une lecture parfois tout à fait inverse de la réalité. Mais en fait, ça, ce n'est pas une propriété psychopharmacologique du cannabis. C'est simplement un ensemble de conséquences et d'une vie parfois pas simple, qui amène ça, et le cannabis aussi, mais c'est deux choses tout à fait différentes.
C'est encore quelque chose de très tabou qu'on ne note pas directement dans un dossier médical.
Alors effectivement, les médecins ne demandent pas effectivement ni les consommations de drogue, ni même les consommations d'alcool, parce que effectivement, ça peut entraîner des difficultés relationnelles avec un certain nombre d'institutions. Hein. On pense tout de suite évidemment à l'école ou à d'autres institutions qui sont très frileuses par rapport à ce type de consommation.
Ça veut dire quoi? Que le comportement est gênant encore aujourd'hui dans la société?
Non, pas forcément. C'est ça le paradoxe aujourd'hui, c'est que il y a des comportements beaucoup plus gênants, mais c'est plus une peur. Il y a, par rapport aux drogues, toute une série d'idées reçues qui font peur. Donc, il y a notamment l'idée de la contagion. Un consommateur de drogue va en entraîner des dizaines, voire beaucoup plus encore derrière lui, etc. Donc, on a des peurs avec nous qui sont pas forcément, dans ce cas-ci, pas du tout raisonnées ni raisonnables, mais elles sont présentes et donc ça génère, des peurs et des réactions inadéquates.
Comment le comportement d'un consommateur va changer? Ça va être rapide ou pas du tout? Ça va venir progressivement?
Si on compare à l'alcool, qui est souvent une drogue connue pour les changements de comportement, il paraît qu'on peut mesurer les changements de comportement, par exemple, le ralentissement des réflexes, etc., dès qu'on boit un verre. Mais Ça, c'est vraiment une mesure qu'on peut faire en laboratoire et de dire, mais on ne voit pas tellement le comportement changer. On voit juste, tiens, quelqu'un qui, en général, est timide, ira plus facilement vers les autres ou a des sentiments particulièrement forts aujourd'hui, etc. C'est à des petites choses comme ça qu'on va remarquer qu'un comportement est modifié, mais c'est tout. C'est un travail de longue haleine, non seulement pour l'accompagnement, etc., mais aussi pour la personne, parce que souvent, quand elle demande de l'aide, c'est qu'elle est dans ce type de comportement depuis très longtemps et que ce n'est que dans un second temps que les difficultés amenées par cette consommation lui sautent aux yeux et qu'elle a besoin d'aide. Mais au début, ça ne saute pas aux yeux, tout le monde le sait. La drogue est une solution, la drogue permet d'aller mieux, etc. Ce n'est qu'après un certain temps, qui est variable selon les situations, selon les personnes, que la demande d'aide peut effectivement arriver publiquement et envers un centre spécialisé ou vers des proches aussi.
C'était Antoine Boucher de chez Infodrogue au micro de François Nemeth.
Véronique Thiberguien, question clé, jusqu'à midi sur la première.
Nous sommes avec Nicolas Zdanovich. Zdanovich, psychiatre aux cliniques universitaires Mongodine. Vous avez entendu ce qu'il dit. Au fond, il rejoint un peu ce que vous dites aussi par rapport au comportement et aux troubles qui sont liés à toute une série d'autres choses qui n'est pas forcément celle du cannabis ou dans le cadre d'un fort-drogue, d'une drogue ou d'alcool, par exemple.
Absolument. En Belgique, par exemple, les chiffres montrent qu'au moins un jeune sur deux, entre 12 et 18 ans, a essayé un joint.
On dit bien « à essayer ». Ça.
Tout à fait. Alors, ça prouve bien que ce n'est pas parce qu'on fume un joint qu'on va obtenir 50% de hauts consommateurs de cannabis à la sortie. Il faut vraiment une série de facteurs qui viennent concourir à un moment donné dans une vie pour entraîner la création d'un super haut consommateur. Et même, on peut de la même façon, jusqu'à un certain point, aussi imaginer que les circonstances de vie changent parce que X, Y, Z, parce que quand même il y a 2-3 réussites, parce que quand même il y a des choses positives qui peuvent se passer. Et dès lors, l'attrait pour le cannabis disparaître, entre guillemets, presque spontanément.
Quand ça ne devient pas problématique, 100 ans, évidemment. Je parlais des études qui ont été réalisées, scientifiques et autres. Vous me dites que ce n'est pas un message utile pour éventuellement prévenir des jeunes de ce type de consommation ou essayer de sensibiliser. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On laisse la consommation aller telle qu'elle est aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on entretient aussi quand même derrière un business totalement illégal et ce genre de choses, ou bien on fait quoi ? Parce que personne ne se...
Je regarde combien j'ai de temps pour répondre à cette question-là qui mérite à peu près une émission, si pas deux entièrement.
Oui, mais évidemment, si vous prenez
oui, c'est ça, si je prends déjà le temps pour penser, en plus. À l'adolescence et chez le jeune adulte, un message préventif qui serait juste en train de dire « attention, c'est dangereux pour la santé » est suivi de très très peu d'effets, voire même, par exemple, pour le tabac, ça a été montré 2-3 fois, voire même être un pouce à la consommation. Donc quand on veut faire des messages préventifs par rapport aux adolescents, il y a une série de choses vraiment auxquelles il faut veiller. D'abord, si vous faites par exemple venir en classe un grand professeur avec son tablier blanc qui va démontrer par A plus B pourquoi le cannabis est mauvais, vous pouvez être certain que vous n'allez absolument pas les intéresser.
Oui.
Donc vous avez plutôt intérêt par exemple à prendre un consommateur élevé, qui va venir expliquer ses propres difficultés. Ou encore, vous devez faire de l'éducation à la santé sur comment est-ce que je fais quand mes potes me proposent un joint pour résister à la tentation parce que sinon je vais me faire décrier. Donc vous avez besoin d'augmenter l'estime d'eux-mêmes, vous avez besoin de leur apprendre à pouvoir dire non au père, P-A-I-R-S. Et donc c'est vraiment il faudrait faire un message publicitaire qui englobe ces différents aspects-là. Et enfin, avoir une société qui ne fait qu'interdire les choses parce que c'est mauvais pour la santé fait une société anti-plaisir qui, évidemment, est absolument insupportable. Enfin, vous ne pouvez plus manger de graisse, vous ne pouvez plus boire de coca, vous ne pouvez plus fumer, vous ne pouvez plus boire, vous ne pouvez plus digérer. Forcément que si vous avez une société aussi contrôlante et aussi négative par rapport au plaisir, vous allez faire des pouces à la consommation, en tous les cas, chez les jeunes.
Qui risquent de consommer autre chose de toute façon,
oui,
et qui se tourneront vers d'autres éléments subversifs.
Donc on a vraiment intérêt à réfléchir à un message sur comment pouvoir se faire plaisir, et seulement quand on répond à la question comment pouvoir se faire plaisir, alors mettre en garde sur des conséquences excessives.
Ben, je vous propose de revenir, Nicolas Zdanovich. On va parler de comment faire passer un message préventif auprès des adolescents, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à faire passer en ce moment auprès des adolescents, et notamment d'adolescents qui s'en vont à l'étranger pour suivre certaines voies qui peuvent être tendancieuses. On en reparlera, Nicolas.
Par exemple,
on prend rendez-vous.
Avec plaisir.
Allez, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup d'être venu dans cette émission. Belle journée à vous.
Merci à vous, Véronique.
En vous souhaitant déjà un bon week-end de lundi, on se fixe rendez-vous. Si vous le voulez bien, on parlera du guide, des couples infertiles et des voyages au féminin entre copines, entre bandes de potes. On va s'amuser, vous le verrez, on va s'amuser aussi sans doute. Et surtout réfléchir avec Barbara Boulet, bonjour.
Bonjour Véronique.
Podcast.